Yanni et Zazie sur Neuf avec Comment on fait. Bonjour Emma.
Bonjour Thierry.
Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Nous sommes jeudi, vous confirmez?
Oui, nous sommes jeudi, je confirme,
bien,
on est en direct, je confirme aussi.
Ah ben on est en direct, oui. Et vous nous proposez, comme tous les jeudis, l'économie dans le Nord-Ouest Vendée. Aujourd'hui, votre invité, Benoît Daïron.
Exactement, et on prend la direction de Chalons, une société donc s'est installée il y a quelques années, c'est BD Ergonomie, BD pour Benoît Daïron. Alors qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, en posant la question autour de nous, on a obtenu un peu de réponses quand même, très peu de réponses, peu de gens le savent vraiment. Ce métier est assez méconnu finalement, la discipline aussi. Et bien vous allez nous éclairer. Bonjour Benoît Daïron.
Bonjour.
Je ne dis pas de bêtises quand je dis que le métier est assez peu connu.
Il est assez peu connu en effet, et on a souvent tendance à penser ergonomie type geste et posture, le bon geste, la bonne posture, chose qui me semble inutile puisqu'il n'y a pas de bon geste et bonne posture, puisqu'il y a une diversité de personnes, des hommes, des femmes, des grands, des petits, et surtout les gens travaillent pendant 8 heures à la suite pendant des années, et donc on ne peut pas prescrire un mode de posture ou de gestuelle.
Vous êtes assez peu en France, hein, je crois, en tout cas assez peu aussi dans la région, ergonome.
Oui, de mémoire, quand je me suis formé, on devait être à peu près 3000 en France. En Vendée, on est 10-12. On peut en trouver en service de santé en travail, on peut en trouver dans des grands groupes, des grandes entreprises, et nous sommes très très peu d'indépendants sur le département. De mémoire, nous ne devons être que deux.
Que dedans, voilà, en libéral, enfin
en libéral,
en indépendant. Alors vous n'avez pas toujours été ergonome, on démarre toujours l'émission sur le parcours hein, de l'invité, on va remonter un petit peu le temps, c'est quoi votre parcours pro?
Alors j'ai commencé il y a très très longtemps dans l'animation et je me suis orienté à un moment plutôt sur l'animation en centre d'hébergement où je suis devenu très rapidement formateur. Je m'intéressais, en fin de compte, on avait un petit atelier de menuiserie et je m'intéressais alors à ce moment-là plutôt sur les questions de comment on travaille pour des gens qui sont exclus du marché de l'emploi. Donc formation, j'avais des petites questions sur la santé à l'époque, on était dans les années sur le VIH, sur les addictions, sur les crises suicidaires, donc je me formais un petit peu sur ces questions de santé en parallèle. Au bout d'un moment, je suis parti plutôt sur l'insertion professionnelle et notamment de la conduite de projet, comment adapter les politiques de l'emploi au local par rapport aux différences territoriales, avec toujours cette question de santé. La question de la santé, c'était comment on est en santé pour accéder à l'emploi, et qui est devenu pour moi comment on est en santé pour accéder à l'emploi, mais également s'y maintenir en emploi dans le temps. Et donc, à un moment, envie de changement, j'ai pensé ergonomie en me disant, c'est une formation, ça a l'air d'être pas trop compliqué, l'ergonomie, donc je suis parti pour 2 ans de master. Et là, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, la santé au travail, c'était pas du geste et du posture, c'était toutes les stratégies développées au quotidien, dans les aléas, avec la variabilité de la matière première, avec la diversité des situations que chaque travailleur peut rencontrer, qu'il fallait prendre en compte pour essayer d'améliorer ses conditions de travail dans un objectif toujours de performance, et donc forcément de construire un compromis des fois.
C'était plus compliqué que ce que vous imaginiez à l'origine.
Oui, complètement.
C'est en 2015 hein, que vous décidez de vous former, donc c'est à Nantes, à l'ergonomie, avec un diplôme à la clé.
Oui, 2 ans, oui, master d'ergonomie, donc qui est de la chaire du CNAM de Nantes-Paris, et donc avec une alternance, première alternance dans la menuiserie, où on était plutôt sur les questions de santé au travail des dirigeants, qui avait du mal à organiser la production. Et deuxième année, sur le moulage contact avec les trous musculo-squelettiques chez des travailleuses vieillissantes.
On a plein de sujets, on va voir. Hein. C'est des problématiques très variées sur plein de secteurs différents. Comment vous avez-vous découvert l'ergonomie en soi en tant que discipline?
Alors moi, j'ai découvert, en fin de compte, je m'intéressais peut-être plus à la psycho du travail au départ. Mais j'avais quand même un regard assez distancié en me disant, pour moi, ça ne me suffit pas d'avoir des entretiens, il faut être sur le terrain. Et donc, bilan de compétences, comment on peut parler de santé en étant au cœur des entreprises? Comment ne pas donner de conseils, j'ai envie de dire de conseils hors sol? Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ergonomie. Au départ, je n'aurais pas forcément appelé ça ergonomie. Peut-être question organisation du travail, quelque chose comme ça, organisation du travail et parallèle santé. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ergonomie, que je ne connaissais pas, et que je me suis documenté pour m'inscrire en formation et y rentrer par la suite.
Et donc c'est en 2019 que vous créez BD Ergonomie, donc à Chalons, après avoir testé votre business plan. Donc il y a tout un travail effectivement pour arriver à la création de l'entreprise.
Oui, ce business plan, en fin de compte, puisque personne ne savait trop ce qu'était l'ergonomie, enfin si des entreprises savent ce que c'est puisqu'on me fait appel, c'était mais comment j'arrivais à en parler, parce qu'on a une formation qui est très conceptuelle, donc c'est comment on arrive à rendre les choses simples. Moi, besoin de tester, donc en couveuse d'entreprise, parce que Généralement, on se forme à un métier, à une technique, mais pas au métier de, entre guillemets, de commercial. Donc c'est comment on fait pour aller vers les entreprises, comment on se fait connaître. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça peut tenir? Comment je vais faire? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de déplacements? Un choix aussi qui était à l'époque, si je me suis lancé en indépendant, c'est qu'il y avait peu d'offres d'emploi sur le secteur.
À ce moment-là, oui.
À ce moment-là, je pense qu'on est toujours un peu pareil, quoi. Ça a été plutôt les gros cabinets parisiens, bordelais, donc pas forcément l'envie de partir. Donc ça a été, bon, ben, je vais essayer de me lancer comme ça.
Oui, et de rester là.
Et de rester là, avec un projet aussi beaucoup, au départ, TPE, PME, petites entreprises, le tissu économique, enfin, un secteur qui m'intéresse aussi par rapport à sa richesse.
Et alors, on n'a pas parlé avant l'émission, mais je vois 2019, ça veut dire un an avant 2020, vous lancez l'entreprise à une période un peu compliquée, finalement, peut-être pas la première année, mais la deuxième, j'imagine.
Voilà, en fin de compte, ça s'est malgré tout bien passé, parce que quand je dis que ça s'est bien passé, c'est aussi que j'ai réussi à passer entre les gouttes de la pandémie, et je me suis retrouvé au bureau pendant le confinement à rédiger. Et que sans doute, je n'avais pas forcément les mêmes exigences. Il me fallait plus de temps aussi à l'époque pour rédiger, pour analyser. Voilà, je gagne en...
Donc en fait, c'est bien tombé entre guillemets à ce moment-là.
Bon, avec beaucoup d'inquiétudes comme tout le monde, pour savoir comment on va en sortir. Ouais. Mais c'était aussi cette question, ça m'a permis aussi d'affiner mon approche avec les mêmes inquiétudes que tout le monde, aussi avec comment on intervient en ergonomie, parce qu'il y a un jour, il y a un projet d'intervention d'entreprise, mais il y a un petit cas contact, donc on arrête, un peu de température le matin, on décale, donc c'était
fallait compliqué pour elle. Pour
voilà, une agilité aussi, enfin vraiment une agilité aussi des entreprises qui était surprenante, c'est comment on arrive à décaler les choses, comment ça s'organise malgré tout. Et plutôt chouette pour ça, ouais.
Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'ergonomie? C'est quoi ce métier? D'où elle vient aussi, l'ergonomie?
Alors, l'ergonomie s'est lancée en France. Alors, quand on parle d'ergonomie francophone, qui est plutôt liée au travail, c'est lancée plutôt dans l'automobile au départ. C'était un médecin du travail, Wissner, qui se posait la question au départ sur ces gens. Ils étaient malades et a priori, le geste et la posture, ça ne suffisait pas pour que ça aille bien. Donc c'est comme ça, dans l'automobile, que ça s'est lancé, ce qui explique aussi pourquoi historiquement on va retrouver des cabinets plutôt près de ces grands pôles, les grands pôles industriels. Et donc le travail, un des premiers livres qu'on lit en ergonomie, ça s'appelle « Comprendre le travail pour le transformer ». Et en fin de compte, quand on dit comprendre, c'est bien d'aller voir ce qui se passe réellement sur le travail et non pas de se dire, tiens, tel travail se fait comme ça.
Oui. C'est un vrai travail de terrain. Il n'y a pas de postulat de base, en fait.
Non. Alors, il y a des repères théoriques. J'imagine. Mais en fin de compte, c'est un petit peu d'aller détecter. Au départ, je disais que c'était un peu inspecter. C'est un travail de détective, comprendre en fin de compte ce qui s'y passe réellement dans le travail. Pourquoi les gens prennent telle posture? Peut-être qu'ils prennent telle posture parce qu'il y a un problème d'éclairage et donc ils vont tendre leur corps pour voir leur tâche quand ils travaillent.
Par exemple,
ça peut être cette question des gens qui reprennent leur tâche sans arrêt et on se rend compte qu'ils reprennent leur tâche parce qu'ils sont sur une activité de contrôle et qu'il faut le silence. Et dès qu'il y a un bruit parasite, ils perdent leur qualité de contrôle, ils sont obligés de recommencer. Et donc c'est là où on va parler de la posture, c'est peut-être que si les gens doivent faire sans arrêt le même travail, c'est là où la posture peut devenir pénible.
Exactement. Alors, exemple aussi, vous dites donc le bon geste, la bonne posture, c'est pas si simple, c'est pas si vrai. Exemple, on connaît tous, on nous dit que si on ramasse quelque chose par terre, il faut pas se pencher mais plier les genoux. Quelqu'un qui doit tous les jours ramasser des choses dans son travail, il va pas forcément tous les jours pendant 8 heures plier les genoux.
Non, c'est un exemple notamment pour de la pose de pavé où j'ai vu les opérateurs qui étaient en flexion du dos pendant plusieurs minutes et en fin de compte, c'est leurs collègues qui emmenaient les pavés à poser. Tout simplement pour éviter de plier les genoux, parce qu'en fin de compte, le genou est aussi une articulation qui peut aussi aller sursolliciter, être problématique. C'est le cas qu'on va rencontrer chez les carreleurs. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne posture. Être en position assise toute la journée, c'est pas terrible. Voilà, qu'est-ce qui fait? Comment on peut réfléchir à tout ça? Et comment, outre le fait de l'assise, est-ce qu'il y a d'autres torsions au niveau du corps? Est-ce qu'il y a des extensions des membres supérieurs? Comment on va réfléchir à tout cet aménagement?
Alors, comment ça se passe quand on vous appelle? D'abord, qui vous appelle et pour quelle problématique on vous appelle et comment vous allez intervenir?
Alors, il y a deux grandes problématiques peut-être sur lesquelles je vais intervenir. C'est les troubles musculo-squelettiques, les douleurs qu'on peut rencontrer au niveau des articulations. Et aussi, ce qui apparaît aussi, ce sont les questions des risques psychosociaux. On va parler du stress, mais il faudrait aussi détailler ce qu'est un risque psychosocial. Donc, on va peut-être être sur des questions de maladie au départ. On a des questions aussi de fidélisation, on ne comprend pas, il y a de l'absentéisme, les gens ne veulent pas rester.
Donc, pourquoi
on va essayer d'y voir. Souvent, les entreprises ont des grands projets et j'aime bien commencer sur plutôt des petits projets. Parce que je pense que l'intervention implique une transformation, quelle qu'elle soit, que ça peut être de l'investissement matériel, organisationnel ou système de formation, système d'information aussi. Et je pense qu'il est important aussi de faire des projets qui sont réalistes et réalisables par rapport au financement que l'entreprise peut y mettre, par rapport au temps aussi que cela implique. Des projets peuvent prendre 2 ans en termes de transformation entre les projets de conception, l'investissement, les changements, les transformations que tout cela implique. Donc vraiment prendre le temps.
Alors on va donner quelques exemples dans quelques instants, comment l'ergonomie peut vraiment améliorer aussi les conditions de travail, les performances. Voilà, je vous pose plein de questions dans quelques minutes, Benoît Dairon.
Juste après le tout dernier, Grégoire sur Neuve. Le monde est à nous.
On m'a dit ceux qui osent peuvent changer les choses et un jour tout gagner. Il n'y a que ceux qui croient un jour ça arrivera, qui le voit arriver. Allez viens on avance, on laisse là ceux qui pensent tout savoir tout connaître. Allez viens on s'en va, on trouvera un endroit où l'on pourra renaître. Viens le monde est à nous. Viens le monde est à nous. Chaque jour, on va vivre notre amour comme si c'était le dernier. Chaque seconde de chaque heure, on prendra tout le bonheur et jamais à moitié. Allez, viens, on se time, le cœur vaille que vaille, on poursuivra l'été. Allez, viens, on s'en va, on trouvera un endroit où encore s'en aller. Viens, le monde est à nous. Mais me lâche pas la main, car le monde ça vaut rien sans toi dans mes parages. On ira n'importe où, mais l'important c'est nous, c'est pas les paysages. Oui, la vie est à nous. Oui, la vie est à nous.
C'est extrait de son nouvel album, c'était Le Monde est à nous. Jusqu'à 13h, la suite des rendez-vous de midi, l'économie à l'honneur tous les jeudis. Votre invité, Benoît Dairon, Emmanuel.
Voilà, de BD Ergonomie, BD pour Benoît Dairon, tout simplement, installé à Chalands. Vous intervenez en Nord-Ouest tout Vendée, mais pas seulement. Je ne vous ai pas encore demandé d'ailleurs votre zone d'intervention.
Alors, on va dire, quand je parle de mon activité, que je vais être Pays de la Loire, mais souvent je suis quand même Sud-Loire, c'est-à-dire beaucoup Vendée. 2023, je n'ai pas quitté le département. 2022, j'avais fait de la conception d'un atelier plutôt dans la Sarthe, enfin vraiment, mais c'est quand même 95% sur la Vendée, mes interventions.
Jusqu'à La Roche, jusqu'à Fontenay, me disiez-vous.
La Roche, Fontenay, secteur de Montaigu, les Herbiers.
Voilà, un peu partout, Vendée. Alors c'est d'abord un travail d'observation que vous réalisez quand on vous appelle. Qu'est-ce que vous regardez d'abord d'ailleurs quand vous arrivez dans une entreprise?
Alors ce que je vais regarder, je vais tendance à regarder, alors quand je disais gestes et postures, je vais peut-être regarder comment travaillent les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup? Est-ce qu'ils ont la tête qui cherche des informations? Je vais regarder aussi les poubelles. Est-ce qu'on jette beaucoup de produits quand on le fabrique? Est-ce qu'il y a des soucis de ce niveau-là? Donc au niveau performance. C'est comme ça que je vais commencer. Beaucoup de questions aussi auprès du dirigeant. Quel est son point de vue sur la problématique? Comment il la vit? Parce qu'une intervention, c'est aussi accompagner un dirigeant. Je pense qu'une intervention est réussie quand chacun retrouve son compte. Pour moi, le dirigeant est aussi un travailleur, donc je vais m'intéresser à sa santé, même si je ne vais pas y aller en direct avec lui. C'est quels sont les effets pour lui de ces problématiques? S'il gère de l'absentéisme tous les jours, quels sont les impacts sur lui, pour lui, sur son travail? Donc des aspects que je vais aller regarder aussi, en tout cas questionner. Donc je vais beaucoup être dans l'atelier. Au départ, je prends un petit peu toutes les infos que je peux prendre en me disant tiens, je vais regarder ici, tiens, je vais regarder ici. Et après, je cible, quand j'ai détecté un fil à tirer, je vais aller tirer ce fil pour aller jusqu'au bout, pour essayer de transformer une situation de travail.
Alors quand vous dites atelier, en fait vous avez une gamme de secteurs d'activité très large, hein. Vous intervenez dans plein d'entreprises possibles, du boulanger au pharmacien, en passant par effectivement
l'industrie, ouais. Le chantier TP, tout peut y aller. Chantier TP, c'était comment on peut réfléchir sur, notamment pour creuser une tranchée, quand il y a des têtes de roche et que ça se fait au burineur, est-ce qu'on peut réfléchir de le faire d'une façon différente? Parce que là, il y avait d'autres risques qui pouvaient s'avérer, outre les vibrations, c'était l'idée d'un travail sans fin, de ne pas réussir à travailler. Donc comment on peut trouver du matériel justement pour aller plus vite et donc pour éviter de moins user les opérateurs sur chantier?
J'allais vous demander justement des exemples concrets, hein, de cas que vous avez pu étudier, sur lesquels vous avez fait des propositions qui ont changé la donne ensuite.
Alors il peut y avoir différents cas. Donc on a parlé tout à l'heure de la pose de pavé, ça peut être dans l'industrie agroalimentaire, une demande c'était de mettre la hauteur du tapis. Et en fin de compte, on n'a pas travaillé sur la hauteur du tapis, mais plutôt sur des tâches qu'on a identifiées comme pouvant être robotisables, parce qu'on était sur de la pénibilité au niveau de l'épaule, donc pour envoyer la matière première en production, et aussi sur la conception, la réflexion sur les recettes, puisque les opératrices prenaient de la matière première dans les caisses sur le côté, c'était comment demain on peut réfléchir aux recettes pour réduire le nombre de rotations du dos.
De mouvement, tout simplement. Et quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent?
On va souvent avoir des problématiques sur des plaines de santé, type plaines de santé, absentéisme. Donc des douleurs au niveau des membres supérieurs, beaucoup au niveau du dos. Et donc c'est comment on peut résoudre ça, puisqu'il y a de l'absentéisme, de la plainte. Et on se rend compte que des fois la plainte énoncée par les opérateurs est très faible par rapport à la réalité, qu'il y a beaucoup de douleurs, et donc c'est d'aller identifier.
Évoqués,
voilà. Donc, identifier tout ça.
Et voilà les raisons de ces douleurs, pas forcément effectivement exprimées. Vous avez plusieurs formules d'intervention aussi, donc il y a une formule où vous venez, vous recherchez des causes, vous réfléchissez, vous proposez. Il y a aussi par exemple la formule de la formation-action.
Oui, alors une expérimentation qui a pu être faite sur Chaland notamment, et c'était plutôt intéressant, c'était comment on forme des ergonomes en interne. Alors des ergonomes, des opérateurs qui peuvent être en mesure d'analyser des situations de travail pour les améliorer. Donc ça a été dans une entreprise, ce process, pour ne pas la citer, où on a pu mettre ce projet avec 5 groupes de formation. Et intéressant, il y avait aussi bien des dirigeants, des cadres, que des opérateurs. Et de se rendre compte que chacun a un point de vue différent sur le travail, et que des réflexions des fois sur comment on peut améliorer, jusqu'où on peut aller pour améliorer en gardant un intérêt pour le travail.
Et c'est intéressant parce que finalement, par la formation, on réfléchit sur le travail de son d'autres personnes, voilà, son dirigeant ou d'employé. Particulièrement intéressant. Et puis vous intervenez dans plein de propositions. Vous allez même conseiller les entreprises, par exemple, si elles ont besoin d'investir sur les subventions existantes.
Voilà, parce qu'il existe en effet des subventions qu'on peut mobiliser, donc aussi bien parfois pour l'intervention en elle-même que pour l'investissement matériel. Donc c'est des projets qui se travaillent ensemble, c'est-à-dire que bien identifier le besoin. Donc ce n'est pas acheter du matériel pour du matériel, c'est quelle sera la plus-value si on est dans un investissement, ou qu'est-ce que ça ne changera pas pour accompagner aussi l'entreprise dans ses choix, et les choix lui appartiennent aussi à la fin. C'est-à-dire, vous voulez acheter ce matériel, a priori il ne serait pas opérant, mais ça vous appartient si vous voulez l'investir, par contre il n'y aura pas d'effet santé. C'est vraiment comment on va conjuguer santé, performance, qualité, pour que ça s'équilibre. Des fois, il y a des aspects sur lesquels on ne peut pas aller au niveau santé pour maintenir la performance de l'entreprise, parce que l'objet c'est quand même qu'elle puisse produire pour pouvoir payer ses salariés, pour investir également.
Il faut penser un petit peu à tout.
Voilà, un petit peu à tout. Ouais, l'équilibre.
Et alors, à noter que vous faites aussi de la recherche, hein, donc effectivement, on voit bien que dans votre travail, il y a beaucoup de réflexions, de questions qui se posent, et vous allez encore plus loin sur certaines thématiques, sur par exemple la transmission des savoir-faire, des expertises. C'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement?
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que ça m'a poursuivi depuis le début de ma carrière professionnelle. Outre ergonomie, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte, par exemple, dans une menuiserie où j'étais appelé, que les novices portaient 3 fois plus que les anciens. 3 fois plus de port de charge. Et quand on identifie la raison, le pourquoi du comment, La première réponse était « ils sont jeunes, ils sont forts », et non, c'est qu'en fin de compte, ils n'avaient pas identifié toutes les stratégies, tous les savoir-faire que les anciens avaient pour solliciter des aides techniques, ou des aides techniques que les anciens avaient aussi créées d'eux-mêmes. La façon de se déplacer avec ou sans charge. Et donc ça, c'est un des aspects, c'est aussi comment on va dans la restauration, comment une ancienne serveuse se positionne dans la salle pour identifier les besoins des clients, les questions qu'elle pose à des clients qui sont purement, alors je vais dire purement stratégiques, dans le sens c'est identifier le mécontentement en amont avant que le mécontentement en arrive. Et ça, c'est des aspects qui ne sont pas forcément connus ou sus des novices, et ce qui est normal, on débute tous un travail. Et donc c'est cette question-là, et ça vient rejoindre aussi pour moi la question du vieillissement au travail. C'est comment quelqu'un qui est usé à 55 ans va pouvoir tenir jusqu'à 64 ans. Comment on va réfléchir à ça en amont ?
On est en plein dedans là dans cette question. Hein.
Voilà, parce qu'il y aura forcément un coût santé et un coût financier aussi pour l'entreprise, qui sera aussi, enfin, l'inaptitude, c'est charge d'entreprise. Donc c'est comment on réfléchit à tout ça ? Comment on commence auprès du novice, du jeune ? Alors quand je dis novice, ça peut être quelqu'un de 30 ans mais qui débute juste dans ce métier, comme un apprenti. Et comment on va réfléchir aussi à cette transmission auprès des anciens et comment on va garder les anciens jusqu'à 64 ans ?
Et donc, qui dit recherche, dit que vous avez besoin d'aller dans les entreprises, vous avez besoin de partenaires aussi pour les mener à bien.
Voilà, aujourd'hui, je suis toutes ces questions-là, je suis dans une partie observation plutôt par rapport à la transmission, mais toutes ces questions du vieillissement, voilà, je la travaille aujourd'hui, cette question plutôt d'un point de vue théorique, voir ce qu'il a déjà existé, voir ce qui, où on en est aujourd'hui avec la réforme des retraites. Et aussi, voilà, ça sera, je pense, dans les mois à venir, une réflexion à avoir avec des entreprises. Enfin, voilà, je creuse, c'est comment construire des partenariats sur cette question-là. Parce que je pense qu'il y a un réel enjeu, vraiment pour les entreprises de demain, sur ce coût que ça va représenter, sur cette inaptitude à payer, sur cette, les restrictions professionnelles. C'est compliqué dans une entreprise quand il y a une restriction où l'opérateur ne peut plus lever les bras, ne peut plus se pencher. C'est qu'à un moment, c'est compliqué de trouver des tâches. Et en tout cas, ça veut dire que les tâches vont être faites par quelqu'un d'autre. Et comment on peut anticiper ces choses-là le plus en amont. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de réflexion que je souhaiterais mener. Aujourd'hui, je n'ai pas encore défini la modalité, mais oui, forcément avec des partenaires territoriaux sur ces questions-là.
Si possible, c'est un sujet évidemment passionnant et vous soulevez effectivement des questions qui vont toucher beaucoup de monde. Alors pour en savoir plus sur votre travail, pour vous contacter, comment on procède ?
Alors le plus simple, j'ai pu développer mes outils, donc c'est plutôt par téléphone ou par mail. Mon profil LinkedIn, que je ne mets pas beaucoup à jour aujourd'hui parce que je suis plutôt en intervention, mais voilà, c'est les façons dont on a pour me contacter.
Et on tape un BD Ergonomie, vous trouvez tout de suite quand même sur internet. Benoît Daéron, écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Vous avancez dans vos recherches, n'hésitez pas à venir nous en partager quelques informations.
Hein. Avec plaisir.
Avec plaisir aussi. BD donc Ergonomie à Chaland.
Très bien, c'est noté. Merci Benoît, bonne continuation.
Merci.
L'émission arrive au podcast évidemment. Demain, vendredi, demain, deux invités pour parler d'un spectacle sur Clémenceau.
Ah oui, et Truculent, Roger Morisseau, Gilles Perraudeau, ils seront présents demain. Le Roger Morisseau, c'est Clémenceau. Et ce sera la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, au Ciné Triskel.
Très bien, c'est noté. Merci Emma. À demain pour les rendez-vous de midi. Allez, vous avez rendez-vous avec Étienne Daou pour la musique. Muse, Paul Roussel et Dua Lipa, c'est juste après l'info à 13h avec François Germain sur Neuve.